Chaque histoire de ce podcast est une trajectoire de vie personnelle, singulière. Elle ne représente qu'elle-même, car chacun son histoire et chacun sa mémoire.
Et de nous, qui se souviendra ? Par Nicole Guidicelli.
Pierre Henry, c'est le pied noir marseillais de Notre-Dame d'Afrique dont nous vous avons raconté l'itinéraire. Comme des milliers de pieds noirs qui ont dû quitter l'Algérie en 1962, il a laissé derrière lui les tombes de ses aïeux. Aujourd'hui, c'est sa croisade pour réhabiliter les cimetières français en Algérie qu'il nous raconte.
Alors c'est vrai que pendant des années, mon père avait gardé en lui la mémoire et le souci d'avoir laissé nos anciens là-bas. Et lorsqu'il y avait les fêtes de Toussaint notamment, nous allions au cimetière de Marseille, de Saint-Pierre. Nous n'avions pas de tombe à fleurir, on allait déposer une gerbe quelque part. On se baladait, où il faisait une prière, où nous allions parfois visiter les églises, alors qu'il n'était que très moyennement croyant. Mais là, c'était le moment où c'était à nouveau le souvenir de ses anciens. Et donc, il me parlait de ce souci des cimetières. Et il avait gardé en Algérie des contacts avec un ami à lui, algérien, Kabil, Bilili. Et Bilili, pendant quelque temps, a entretenu la tombe familiale au cimetière d'Alger. Donc j'avais ça dans un coin de ma tête, tout en étant très éloigné de l'Algérie et d'un potentiel, d'un probable retour, un improbable retour. Tout ça ne m'intéressait plus du tout. J'étais Marseillais. J'avais des enfants qui avaient grandi. Nous étions en 2002-2003. J'avais écouté le discours de Chirac à l'ambassade de France. J'avais trouvé que l'idée était bonne. Enfin, refaire la paix entre les communautés. Et peut-être permettre aux pieds noirs de revenir en Algérie, se recueillir sur la tombe de leurs anciens. Et c'était un discours qui était intelligent. Ça faisait 40 ans que les pieds noirs avaient mis de côté l'Algérie, avec bien sûr toujours le deuil de leurs anciens laissés là-bas sur place. Ça faisait aussi 40 ans que les Algériens se plaignaient de l'abandon de la France et de la colonisation. Et j'avais un ami qui était un politicien connu du Parti Socialiste, et il me dit: on organise un voyage pour que le président de la région et certains d'entre nous aillent en Algérie, voir comment les choses se présentent, voir avec le consul, l'ambassadeur, voir des autorités algériennes. Tu veux pas venir ?
C'est donc un peu par hasard que Pierre-Henri se retrouve en septembre 2004 à bord d'un avion qui s'envole vers l'Algérie avec une délégation importante de journalistes. C'est la première fois depuis 40 ans qu'il retourne dans son pays natal.
Et donc je me suis retrouvé comme ça, atterrir à Alger. C'était... quand l'avion s'est posé, j'avais pas l'impression d'être revenu à Alger. Tout ça était différent de ce que j'avais connu. Alors toute cette délégation qui suivait à la queue leu leu, moi je me suis toujours un peu tenu à l'écart, parce que je sentais des besoins différents chez moi. Et donc je les ai quittés et je suis sorti de l'aérogare. L'aéroport d'Alger est près d'une route qu'on appelle la route moutonnière et qui est bordée de caroubiers. Et j'ai senti l'odeur des carouilles. Ça, c'était impressionnant. Et je gardais d'enfant cette odeur des carouilles que j'ai retrouvée tout de suite. Et donc, la délégation a démarré. Ils ont été invités par le maire d'Alger et le préfet d'Alger à s'arrêter à la préfecture d'Alger, qui est sur le front de mer d'Alger. Et moi, je suis resté là, pareil. Je me suis écarté. J'ai traversé ce boulevard. Et je me suis retrouvé au-dessus de l'entrepôt de mon père, puisque lui avait son entrepôt sur les quais, et c'était pile dessous. Et lorsqu'on est sur cette promenade-là, et qu'on lève la tête et qu'on regarde à gauche, comme à Marseille pour Madame Lagarde, là-bas on voit Notre-Dame d'Afrique. Et donc je lève la tête et je vois Notre-Dame d'Afrique. C'était toutes ces impressions, ces sentiments, cette émotion, qu'en dehors de la naissance de mes enfants, je n'avais plus connu depuis très longtemps. ces émotions se sont bousculées. Je ne savais plus où j'allais. J'étais dans un malaise sentimental. Et je sentais que ce pays était bien. C'est fou de sentir ça. En me retournant sur le fronton, il y avait un drapeau algérien. Mais ça m'a fait dire, effectivement, plus tard, que ça n'était pas ma nation. Mais le pays reste le mien. Et d'ailleurs, mes amis algériens, aujourd'hui, me le disent, c'est vraiment ton pays, quoi. Et nous sommes partis voir un cimetière. Et nous sommes arrivés au cimetière de Saint-Eugène. Le cimetière de Saint-Eugène, c'est là que sont enterrés les miens. Là, le premier carré, et c'est bien que le consulat le fasse, est parfaitement entretenu. Parce que dès qu'une personnalité française vient à Alger, elle va déposer une gerbe au cimetière de Saint-Eugène, on l'amène dans ce carré-là. Le cimetière de Saint-Eugène fait 16 hectares pour la partie chrétienne, 6 hectares pour la partie israélite. Plus les abords et les communs, ça doit faire du 30 hectares, quoi. Donc ils ont aménagé 2000 mètres carrés. Très propre, il n'y a rien à dire. Et donc ils vont tous dans cette fameuse allée, qui est à 200 mètres de l'entrée, pas plus. Et là encore une troisième fois, je m'absente. Et je vais me perdre dans le cimetière, parce que la dernière fois que j'y étais, j'étais enfant. Et je me souvenais pas où était cette tombe, mais vraiment pas. Et j'ai marché, j'ai cherché. Et puis j'ai fini par la trouver. Le carré était complètement vandalisé, esquinté. Le temps, bien sûr le temps. Les pieds noirs, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les pays méditerranéens, ont la mauvaise manie, peut-être à cause de la vue, de construire leur cimetière à flanc de colline. Pendant 40 ans, ça ravine, bien sûr. Il y a tout qui descend. Donc il y a déjà la colline qui dégringole, la terre qui glisse, le ciment qui s'éclate. Puis l'Algérie, pays pauvre, et encore plus pauvre au début à l'indépendance, quand les gens ont voulu aménager leur maison, ils sont venus prendre du marbre dans les cimetières pour faire des escaliers. Donc ils ont démoli pas mal de choses. Et donc le carré de mon enfance était entièrement démoli. Et au milieu, il y avait une tombe blanche, parfaitement intacte, la mienne. Ça, c'était un truc. Bien entendu, c'était Billy qui entretenait la tombe et qui avait fait la chasse pendant des années, averti les gardiens du cimetière, promis un coup de fusil au premier qui s'approcherait, et donc la tombe est restée en état. Et donc, je me suis retrouvé là, devant la tombe, et l'émotion était là, bien sûr, et tout me revenait. Et les mots de mon père et toutes ces choses. Je me suis recueilli, puis la visite a été terminée et nous sommes partis à l'ambassade de France où il y avait un dîner, où toute la délégation à nouveau se bousculait pour aller manger les gâteaux, les petits fours. Les politiques avaient leur coin à eux, je me suis retrouvé avec un tas de journalistes et avec moi comme civil au milieu. Et ils étaient tous curieux puisqu'ils savaient que j'étais le client potentiel. Le seul pied noir qui vient dans un cimetière avec une délégation et qui va se recueillir sur la tombe familiale, il y a de quoi tendre 200 micros. Je leur ai dit, et notamment à une qui m'est chère, que c'était pas le jour vraiment de cela. Mais nous avons quand même parlé de l'état des cimetières. Et nous avons parlé du discours de Chirac, et la plupart d'entre nous avons dit qu'effectivement, il était temps de s'occuper des cimetières d'Algérie. Mais qui allait le faire ? Et autour de cette table, en fin de repas, un de ces journalistes, une jeune femme, m'a dit « Mais vous, faites-le vous. » Arrivé à l'hôtel, j'ai demandé au concierge de l'hôtel s'ils avaient des voitures à disposition. Et j'ai pris une voiture, 40 ans plus tard, à minuit. Et j'ai fait le tour de mon pays. Je suis repassé là où nous allions à la plage, là où nous avions notre maison qui n'était plus là, qui n'existait plus, là où j'allais au collège. Là où nous avions notre maison, j'ai ramassé un peu de terre que j'ai ramené dans un sac à ma mère. Et le lendemain matin, j'ai pris l'avion pour revenir à Marseille. Et les choses ont mûri. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Beaucoup de gens me relançaient et beaucoup de journalistes qui avaient suivi cette délégation, qui m'avaient vu, me téléphonaient, me disaient « il faut faire quelque chose ». Tellement de gens me disaient « il faut faire quelque chose ». Parce que le chantier était immense. J'en avais parlé avec le consul pendant le séjour d'Alger et qui m'avait dépeint un peu ce que les 400 cimetières d'Algérie, juifs et chrétiens, et Dumont m'avait dépeint une situation catastrophique et lui aussi pensait que quelqu'un devait s'en occuper. Et donc j'ai dit à mon épouse, mais c'est un truc insurmontable. Même homme dit, si c'est insurmontable, c'est pour toi. C'était touché à ma corde sensible.
Pierre-Henri se lance un nouveau défi et décide de s'atteler à cette tâche énorme.
J'avais eu aussi des nouvelles d'une collectivité territoriale qui m'avait dit, avez-vous réfléchi ? Et on pourra vous aider, revenez vers nous. Et de mon ami qui était un homme politique qui faisait partie de ces choses-là et qui me faisait une confiance absolue. Donc je suis retourné en Algérie voir. J'ai commencé par la ville de Bougie parce que j'avais un ami français, ce juif d'Oranie qui avait une affaire à Bougie. Donc on a dit on va commencer par une petite ville, ce sera plus facile. Et donc j'ai pris avec lui l'avion et j'étais à Bougie voir. Il y avait dans la région de Bougie 4 ou 5 cimetières chrétiens. Un cimetière juif, je ne savais pas qu'il y avait aussi, enfin à l'époque, je n'avais pas pensé aux cimetières musulmans, mais il y avait aussi des cimetières musulmans. Et on s'est retrouvé à déjeuner avec un ami commun, lui algérien, qui est un importateur de voitures à Béjaïa, et nous avons été directement à la mairie avec cet homme qui était bien entendu un illustre bougiote qui avait réussi et qui faisait plein de choses. Et le maire de Bougie nous a ouvert tout de suite sa porte. Il m'embrassait d'ailleurs. Il m'a dit, en drap arabe, kabyle, à pied noir, on s'embrasse. Donc, je l'ai embrassé. Et il m'a dit, comment tu vas faire ? Je lui ai dit, je vais faire avec ton aide, parce que si les collectivités ne s'y mettent pas. Il m'a dit, déjà, sache une chose, nous, tout ce qui est matériel, camion, etc., on te met à disposition. Et si tu as besoin de 3-4 chaouis, on te les file aussi. Donc, j'ai toujours tout de suite trouvé, c'était le bon moment. J'ai pas eu plus de chance que d'autres, j'ai pas eu plus de courage que d'autres. Je suis arrivé au bon moment. Je suis arrivé au moment où les Algériens aussi voulaient à nouveau un peu de réconciliation. Ils voulaient aussi voir arriver d'autres personnes de l'étranger, des Français. Ils étaient contents de nous voir arriver.
Le mouvement est lancé. Pierre-Henri crée une association et se met à l'ouvrage.
Le premier cimetière visité, c'est le cimetière chrétien de Bougie, qui est vraiment très grand. Les tombes du bas étaient à peu près en état correct. Le haut, accroché à front de colline, avait dégringolé. Beaucoup de tombes étaient cassées, éventrées. En plus, dans cet endroit de Bougie, vivent des singes, adorables d'ailleurs. Mais leur grand jeu, c'est de se balancer sur les croix. Ils ont fini par démolir les croix. Le deuxième cimetière en contrebas, c'est le cimetière juif. Lorsque nous sommes arrivés devant ce cimetière, alors il était fermé. Il y avait une grille avec des chaînes, il a fallu appeler le maire pour qu'il nous envoie quelqu'un. Et il y avait un Européen qui était devant, qui nous avait vu arriver, qui s'en est pris à nous, tellement le cimetière était en mauvais état. Il était sûr que le cimetière était entretenu depuis des années, c'était un pied noir, dont les parents étaient enterrés là, les grands-parents. Moi j'ai réhabilité parce qu'ils étaient à côté, et qu'on ne pouvait pas laisser en mauvais état un cimetière musulman à côté d'un cimetière chrétien. Avec l'accord d'ailleurs des autorités locales qui m'ont dit, après tout, ils ont vécu ensemble, ils peuvent aussi dormir ensemble. Et j'ai même, d'ailleurs, sur un des cimetières, j'ai cassé le mur de séparation. Ils n'avaient pas de raison d'être séparés. Les accords des vivants n'avaient pas séparé les morts. C'est ce que j'avais dit au maire, qui était complètement d'accord avec moi. Et il m'a dit, c'est dommage qu'il ait séparé les vivants, d'ailleurs, c'était sa réponse, c'est dire. Enfin, le fait est que tout ça est en très mauvais état. Les cimetières d'Alger et tout ce que j'ai vu, puisqu'ensuite, on a commencé à s'y mettre. Pour essayer de voir ces 400 cimetières, je ne les ai pas tous vus. C'était impossible. J'en ai vu beaucoup. J'en ai vu avec les divers consuls de France en Algérie qui nous ont suivis, épaulés, guidés, remerciés aussi. Et qui ont été aussi formidables avec eux. On a créé autour de nous une espèce d'attroupement algérien, de maires, de préfets, d'hommes d'affaires, de gens de la société civile qui disaient après tout pourquoi pas. Moi j'ai bien connu la famille Hernandez, c'était des amis de mes parents, si je peux faire quelque chose, je le fais. Et donc on s'est tous mis au boulot là. Et on a commencé à faire des travaux. On a trouvé un entrepreneur algérien formidable, qui est aujourd'hui il m'appelle Roya, ça veut dire frère en arabe, c'est un frère. Parce que lorsque nous sommes rentrés dans le cimetière juif d'Alger, on ne voyait plus grand chose. Il n'y avait que de la terre. On savait qu'il y avait des tombes sur le haut du cimetière. En bas, on en voyait quelques-unes. Et cet entrepreneur nous avait expliqué que c'était un problème, puisqu'il fallait avoir des ânes pour monter le matériel, la flanc de colline, pour essayer de... On ne pouvait même pas faire monter les tractopelles, la colline ne tenait pas. Et chose formidable, lorsqu'il a commencé ce cimetière juif, et qu'il a commencé à décaisser la colline, tout était intact dessous. Il y avait de formidables escaliers en marbre blanc, immenses, qui était en état d'époque. La terre avait tout conservé. Et donc le cimetière juif d'Alger, on n'a fait que décaisser. On a réparé quelques tombes qui avaient été cassées par des chutes de rochers plus haut. Le reste avait simplement été passé sous la terre. Et on a fait un cimetière, on peut en voir les photos aujourd'hui sur les sites, le cimetière juif est très beau. Roger Hanem avait du reste téléphoné pour nous remercier. Et quand il est décédé, il a voulu être enterré dans ce cimetière juif d'Alger, là où était sa famille, bien sûr.
Mais très vite, les limites de ce chantier s'imposent.
Le consulat de France a réhabilité quelques cimetières, mais très vite, il s'est penché sur le regroupement. Et nous-mêmes, nous étions assez d'accord là-dessus. Et Dieu sait que des gens en ont voulu d'avoir soutenu cette théorie. Mais il était impossible de réhabiliter tous les cimetières d'Algérie. Trop nombreux, trop de travail, 400 chantiers à ouvrir. Nous, à un moment donné, nous avions 14 chantiers en même temps. Je crois que c'est au maximum où nous sommes arrivés, mais c'était une folie. Il y a 20 à 30 personnes qui travaillent par chantier, il faut du matériel. J'avais à l'époque chiffré l'entretien à 5 millions d'euros par an. L'entretien, je ne parle pas de réhabilitation, on décompte 400 cimetières. Une fois que vous avez réussi pour une fortune à les réhabiliter, il faut les garder, il faut les entretenir, il faut un gardien, il faut... C'est 5 millions par an, 400 cimetières. Donc c'était impossible. Ou alors il aurait fallu que toutes les collectivités territoriales puissent aider, participer... Mais c'était absolument impossible. Il aurait fallu qu'il y ait vraiment un mouvement de moyens colossal.
Pour Pierre Henry, le bilan de cette opération n'est pas convaincant.
Sur les 400 cimetières, un peu plus de 400 cimetières français d'Algérie, une grosse centaine ont été réhabilités par le corps consulaire français en Algérie, par les autorités algériennes qui ont quand même eux aussi pris en charge des cimetières et de nombreux cimetières. Par les autorités françaises, bien sûr, par quelques collectivités territoriales françaises qui ont bien voulu apporter une aide saupoudrée, rare et de toutes les manières non renouvelée, et bien sûr par nous-mêmes. Ensuite, après ces réhabilitations, il a bien fallu songer au regroupement, ramener justement les restes dans des cimetières en meilleur état, faire une stèle, puisque la charge était intenable, les moyens n'étaient pas là pour pouvoir réhabiliter tous les cimetières français d'Algérie. Les cimetières d'Algérie, pour les pieds noirs, sont un seul et même cimetière. Parce que ce sont les leurs qui sont là-bas, qui sont partout. Même nous, lorsque je parle de mon tombeau familial, il est à Saint-Eugène, bien sûr à Alger. Mais une partie est aussi à Nemours, une autre partie est à Oran. La grand-mère de mes enfants a son mari enterré à Oran. Ce sont nos cimetières. Nous avons œuvré, commencé les chantiers là où nous étions, sans réfléchir. Mais si nous avions dû réfléchir et choisir, nous n'aurions pas pu le faire. Lorsqu'aujourd'hui en Algérie, on a réhabilité, pas nous seuls, mais lorsqu'au total 100 cimetières ont été réhabilités en Algérie, c'est un échec. C'est un échec important. C'est une peine, une tristesse pour les pieds noirs. Et ils auraient dû s'en mêler et être plus motivés et s'intéresser plus à la chose. Et c'est un échec pour la France. Pour la France. C'est au respect qu'on doit à ces anciens qu'on reconnaît un grand peuple. Alors aujourd'hui, il reste de l'entretien qui est fait par les autorités consulaires françaises en Algérie. Il reste de l'entretien également qui est fait par les autorités territoriales algériennes dans les diverses provinces d'Algérie. Et je crois que c'est tout. Voilà où nous en sommes des cimetières. C'était un beau rêve. On en a construit un tout petit bout. Il fallait rêver plusieurs nuits d'affilée et nous avons fait le songe d'une seule nuit. Et voilà, la suite ne m'appartient plus.
Les raisons de cet échec, il les a bien analysées.
Il aurait d'abord fallu un véritable inventaire. Un vrai. Un inventaire pour 400 cimetières et pour les travaux nécessaires, ça demande beaucoup de monde, beaucoup d'argent, sans rien faire pour l'instant que faire dresser l'inventaire. J'ai été chef d'entreprise, je sais ce que c'est qu'un plan à 3 ans, à 6 ans. Et une entreprise ne vit pas si elle n'a pas un plan à 10 ans. Donc il fallait faire cela. Ça demande d'énormes moyens humains et financiers. Ensuite, l'inventaire fait, il fallait construire un véritable calendrier de travaux. Parce qu'on ne peut pas mettre en chantier 400 cimetières en même temps. C'est inimaginable. Donc il fallait aussi un vrai calendrier. Il fallait là un véritable comité lié au lieu de mémoire en Algérie, pas seulement au cimetière. Et là, nous aurions plus la France, sûrement pas moi, mais la France aurait pu effectivement, et le corps consulaire français en Algérie, aurait pu lancer de vrais chantiers qui, sur 4-5 ans, voire plus, auraient couvert la réhabilitation des cimetières réhabilitables qu'il aurait fallu identifier. Puis, dans un plan de 2, 3 ou 4 ans suivants, aurait lancé le regroupement de la totalité des sépultures à l'intérieur des cimetières remis en état. Puis ensuite, aurait géré l'entretien et le gardiennage de tous ces lieux, aussi colossales. Comment faire ? Ce qui a beaucoup manqué, ce sont les informations, et pour ça, je peux mettre en parallèle deux choses. D'abord, nous avons été sollicités par quelques pieds noirs et par quelques amis pour organiser un pèlerinage, un peu ce qu'avait dit d'ailleurs Chirac, permettre aux pieds noirs de revenir en Algérie, retrouver leur lieu de mémoire, pourquoi pas leurs amis, et se recueillir sur les tombes. Nous avons organisé un premier voyage, et ça a très bien marché. Les gens qui sont revenus de ce voyage en ont beaucoup parlé. Les journalistes qui avaient entendu parler de ce formidable mouvement de pieds noirs qui rentraient en Algérie, le consulat d'Algérie qui avait avoué pas loin de 400 ou 500 visas délivrés tout d'un coup à des pieds noirs, ça avait attiré fortement l'attention des journalistes. Et nous avons eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias qui ont relayé ce message. Certains ont appelé ça même la nostalgérie, c'était pas mal. Un peu de nostalgie et beaucoup d'Algérie. Et ça a fonctionné, tant et si bien qu'il a fallu qu'on arrête les voyages. D'abord parce qu'on avait trop de demandes, parce que les agences de voyage, et en première Algérie, avec qui nous avions les meilleures relations du monde, nous ont dit « bon, vous n'êtes pas voyagiste ». Et nous n'étions pas voyagistes. Nous avons, en 2000, je crois que c'était en 2007 ou en 2008, le ministère algérien m'avait donné le chiffre de 80 000 visas délivrés à des pieds noirs sur les 5 années précédentes. Donc c'est vrai que ce mouvement a été créé par les journalistes, parce qu'ils ont fait des reportages, parce qu'ils ont informé la population française et les pieds noirs vivant en France, qu'il y avait à travers une association la possibilité d'aller en Algérie et d'aller se recueillir sur les tombes. Mais c'est pas tellement de ça qu'il parlait. Il parlait, quand on regarde les reportages, ils parlent tous des retrouvailles. Et nous avons eu comme ça une demande extraordinaire. Tant et si bien que ça nous a dépassé, qu'on a refilé ça à des agences de voyage, et que dans le même temps, du reste, nous avons, nous, vécu un drame sur un de ces retours en Algérie. Et j'ai souhaité arrêter, parce que je les amenais pour qu'ils se recueillent, pas pour qu'ils meurent. Si nous avions eu le même mouvement de médias, de collectivités, d'informations, même du gouvernement, sur les cimetières en Algérie pour les pieds noirs et à destination des pieds noirs, les pieds noirs auraient pu être motivés, s'intéresser, aider. Ils l'auraient fait, mais il n'y a pas eu cela. Ça a existé pour les voyages, parce que ça a plu au milieu médiatique français. Il y a eu des reportages, il y a eu des télévisions qui nous ont accompagnés, enfin c'est fou quand même. Et les cimetières, il y avait vraiment quelque chose d'important là par contre. Il y avait quelque chose qui était la mémoire, la nécessité, le respect, l'image de la France. Quelle image de la France quand on rentre dans un cimetière français en Algérie et qu'on voit parfois des ossements qui se promènent dans les allées. On ne l'a pas dit aux pieds noirs. Peut-être même que dans leur colère et leur tristesse, ils auraient réagi en disant « on va s'y intéresser, que faut-il faire ?» Je crois que très peu d'entre eux ont eu l'information. Ceux qui ont fait le voyage, ceux qui sont venus dans le but effectivement de revoir leur pays, mais qui en ont profité pour voir également le cimetière, ceux-là, oui, ont été sensibles. Mais c'est infime, trop peu nombreux. Et puis souvent, même s'ils ont été nombreux à venir, ils sont venus parce qu'ils se sont fait accompagner par leur famille, leurs enfants, les petits-enfants. Moi, j'ai amené des gens où le grand-père venait avec sa fille, son fils qui était marié, etc. Donc tout le monde venait revoir. Et donc, il ne les amenait pas au cimetière, d'ailleurs. Lui, il allait se recueillir, mais il les amenait voir la plage de son enfance, le lycée où il avait été à l'école. Voilà. Et donc, autant sur la partie tourisme en Algérie, entre parenthèses, le tourisme bien sûr, mais tourisme mémoriel en Algérie et cimetière, il y a eu un écart extraordinaire de l'information. Au début, les collectivités se sont intéressées, les collectivités territoriales françaises, parce que on parlait des cimetières France en Algérie, parce que les pieds noirs vivant en France étaient leurs électeurs. Donc ils ont tout de suite annoncé, moi j'ai certaines collectivités où j'ai des écrits qui disent non seulement nous allons aider à la réhabilitation des cimetières, mais nous allons inscrire un plan sur l'avenir. Et puis ils se sont rendus compte très vite qu'il n'y avait pas de rebondissement médiatique autour de ça. Ils n'ont plus rien inscrit du tout. On a lutté 10 ans. On a travaillé pendant 10 années. Et en plus de ça, en parallèle, nous avons fait grand nombre de choses qui ont réussi. Le retour des pieds noirs, tellement réussi. Vous vous rendez compte, si j'en avais fait un commerce, j'aurais plus gagné avec le retour des pieds noirs qu'en 40 ans de vie professionnelle.
Pierre-Henri prend de la distance, mais il ne regrette rien.
J'ai fait au-delà de ce que j'avais envie de faire, de ce que je pouvais faire. J'ai aucun regret. Donc non. J'ai fait là quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai ramené des gens dans l'émotion, là où leurs anciens étaient enterrés, dans des cimetières fleuris. Et en plus de ça, en plus de cette joie-là, de ramener les gens, de vivre avec eux des moments d'émotion, d'aller manger un beignet arabe. Vous vous rendez compte, le premier cimetière que nous étions partis pour visiter, on a quitté l'hôtel où nous étions une centaine de personnes à 10h du matin pour traverser Alger, aller vers le cimetière de Saint-Eugène. Et on s'est arrêté place du gouvernement. Et nous sommes descendus des 3 bus parce que tout Alger est venu place du gouvernement. Le téléphone arabe a marché et on s'est vu envahir la place du gouvernement. La sécurité algérienne qui nous encadrait était follement inquiète. Le commissaire en charge m'a dit « Mais tu es fou, fallait les laisser dans le bus. » Ben, ils se sont embrassés, il y en a qui venaient avec des plateaux, les tasses de thé dessus, enfin c'est fou, des gâteaux, enfin, c'est incroyable. Donc il y a eu des mouvements, quand vous vivez ça, c'est un mouvement de joie, d'émotion extraordinaire. Nous étions très proches avant les événements et même au début des événements. Ils sont tous restés très proches. Les pieds noirs et les Algériens de cette bande littorale d'Alger, on va dire ceux qui vivent au même endroit aujourd'hui, ont des connivences, des souvenirs en commun, beaucoup plus que des larmes, même si des deux côtés il y a eu des larmes. Ils n'en ont jamais parlé. Moi j'ai fait rencontrer des centaines de pieds noirs et d'Algériens, avec des milliers d'Algériens, pas une fois. Un mot plus haut que l'autre, jamais. Que du bonheur de se revoir, des souvenirs. Et certains même espéraient que les pieds noirs allaient revenir encore plus nombreux, voir certains se réinstaller. En filigrane, comme ça, je voudrais dire une chose importante, parce que c'est ce qui a accompagné tout ce temps important et long de travail en Algérie, sur tout ce que j'ai fait en Algérie, et notamment des centaines de pieds noirs, milliers, que j'ai accompagnés là-bas sur place plus tard. J'ai toujours eu l'inquiétude qu'un jour, il y ait comme ça un éveil des choses, une dispute, une polémique entre un pied noir et un Algérien. Je ne l'ai jamais vu. Pendant des années, je n'ai jamais entendu un Algérien et un pied noir débattre de manière contradictoire, voire agressive, des événements d'Algérie. Jamais.
Quand Pierre-Henri pense au cimetière français d'Algérie, ce n'est pas aux morts qu'il pense.
Je pense aux vivants. Oh, c'est bien entendu que ça peut vous surprendre que je dise ça. Nos morts en Algérie ont permis que se mette en place un système qui n'existait pas et qui a permis de sauver des centaines d'enfants. On a mis en place un système d'assistance médicale, d'aide au dépistage, des cardiopathies congénitales. On a fait tout ça parce qu'un jour, un médecin algérien, une pédiatre algérienne est venue me voir en me disant « Tu fais beaucoup de choses pour les morts dans les cimetières. Tu fais beaucoup de choses pour les vieux peignoirs que tu ramènes et qui font plaisir aux vieux Algériens, qui les embrassent. Mais pour les bébés, tu fais rien. » Alors j'ai fait. Donc pour moi, les cimetières, c'est ce qui a permis aussi cela. Comme quoi, lorsqu'on s'appuie sur une mémoire, sur des valeurs, on peut développer des choses. Moi, je me suis débrouillé pour faire avoir des appareils qui s'appellent des accussons, qui sont des échographies, qui permettent de dépister les cardiopathies congénitales chez les femmes enceintes. L'Algérie ne voulait pas de matériel d'occasion, alors il n'en avait pas du tout. Mais il ne voulait pas de matériel d'occasion, l'Algérie n'est pas la parente pauvre de la France. Et la France disait d'abord on ne va rien financer, Et en plus de ça, même notre matériel qui a juste 2 ans d'âge et qu'on a réformé, on va pas le faire partir, hein, il dort dans les hangars, là. On s'est arrangé pour que la société civile algérienne ait des accussons que la société civile française leur a donné. Et les politiques de part et d'autre de la Méditerranée n'en ont rien su. Ils savent pas qu'ils ont pas acheté d'accussons, ils savent pas que nos accussons ont disparu de leur hangar. Voilà. On a dû faire 100 000 dépistages. Vous vous rendez compte? Quand j'ai arrêté de compter, on avait opéré 700 enfants.
Et c'est de l'Algérie d'aujourd'hui dont il nous parle.
Et les pieds noirs qui vivent en France ont bien sûr encore des tristesses, un peu de nostalgie, mais ils sont heureux. Je ne pourrais pas dire la même chose des Algériens. Je cite souvent un truc, lorsque j'étais enfant en Algérie, les trains étaient des Michelin. Comme en France, nous avions les mêmes trains, les mêmes rails, les mêmes transports. Les choses ont évolué. En France, la Michelin était remplacée par le TGV. En Algérie, il n'y a plus de Michelin. Il n'y a plus de rails. L'Algérie est un pays riche. La nomenclature algérienne vit, j'en connais de nombreux, vit de manière très confortable. Mais la majorité de la population vit quand même assez mal. Les jeunes n'ont pas de débouchés. Malgré les efforts qui ont été faits pour l'éducation nationale là-bas, il reste beaucoup de choses à faire. Il y a une période d'arabisation dans les années 80 qui a été catastrophique. Beaucoup de gens m'ont sollicité en Algérie. Parce que, comme j'avais réussi un peu sur les cimetières, pas mal sur le retour des pieds noirs et beaucoup sur autre chose, certains m'ont demandé est-ce que ça, on pourrait pas le faire. J'ai été, par exemple, sollicité pour mettre en place des centres de formation en Algérie, former les jeunes Algériens, utiliser même les professeurs pieds noirs à la retraite pour créer des choses, soit faire venir ici les jeunes Algériens, soit amener des pieds noirs là-bas, sur des périodes de stage, former les gens, leur apprendre un métier. Il y a des ascenseurs dans tous les immeubles d'Alger, ils sont en panne. Il n'y a pas d'ascensoriste. Personne ne répare les ascenseurs. Ils ne savent pas, ils n'ont pas formé les gens. Il y en a, mais très peu. Un ministre du Travail algérien m'avait invité à déjeuner pour me dire « Fais quelque chose, là. Tu as réussi avec les enfants malades. Là, fais-moi quelque chose. Trouve-moi 2000 professeurs à la retraite. Là. On fait quelque chose. On paye tout. On fait tout. » Voilà. Et j'ai essayé. Hein. Je suis arrivé en France avec mon panache blanc et mon destrier. J'ai été voir les autorités auxquelles peut-être j'aurais pu proposer ou qui auraient pu. Mais les portes étaient fermées. Tout était fermé. On est toujours dans les accords d'Évian, là, hein, on a le même état d'esprit. La France est toujours une ancienne colonie qui s'émeut de ce qu'elle a pu faire. Et l'Algérie justifie aujourd'hui de ses échecs, et elle en a. Et ça, je peux le dire, en prétendant et en prétextant que tout ça est dû à la décolonisation et à la colonisation. 55 ans plus tard, quoi. C'est la faute aux Français, faut arrêter. Quand les choses ne vont pas en Algérie, lorsque le tourisme ne s'est pas développé, que tout ce qui était satellitaire à l'économie ne s'est pas développé, rien, l'hôtellerie, la restauration, les industries, n'en parlons même pas, les PME, les PMI, rien ne s'est développé. L'Algérie, c'est du gaz et du pétrole. Il y a 2000 km de côte magnifique avec les pins qui ont leurs racines dans l'eau. Dans la Méditerranée, il y a des endroits merveilleux où on pourrait faire beaucoup de choses dans le respect de tout ce qu'on veut. C'est l'échec de l'Algérie. Ils le font pas. Les jeunes sont assis sur des parapets, les jambes ballantes, et ils attendent. Comme attendaient leur père et leur grand-père avant eux. Depuis 62, ils battent des jambes sur les parapets. C'est vraiment un constat pénible que je fais pour l'Algérie, pays que j'aime beaucoup, population que j'aime beaucoup. Mais tout comme la France, les hommes politiques, les gens qui dirigent, sont dans des sphères tellement hautes qu'ils ne voyaient pas ce qui se passe en bas. Mais alors, pas du tout, puis ça n'intéresse pas. À mon âge, j'ai croisé beaucoup de choses. Et j'ai croisé les gens du peuple, de la société civile, ceux qui se donnaient du mal et qui faisaient des réussites. Et cela aurait pu. Mais par contre, ce dont le métier est de penser politiquement à l'avenir des peuples, ils savent pas ce qu'est l'avenir, ils savent pas ce que sont les peuples.
Et qui se souviendra des pieds noirs ?
Je pense qu'il reste aujourd'hui environ 300 à 400 000 pieds noirs nés en Algérie. Parce qu'il s'agit bien de gens nés avant 1962. Vous vous rendez compte que ceux qui sont nés en 62, aujourd'hui, ont déjà 60 ans. Pour ceux qui sont nés le jour de l'indépendance, les gens qui sont nés dans les années 50 en Algérie ont aujourd'hui 80 ans, 70 ans. Nous sommes partis 800 000. On est 300 000 à mon avis, je suis optimiste. Très peu ont transmis. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Est-ce qu'il y a un devoir de mémoire ? Les Juifs avec la Shoah, oui. Les Arméniens avec le génocide, oui. Il y a eu un malentendu. Avec des conséquences dramatiques. Il y a eu un malentendu. Ça aboutit aux accords d'Évian. Il y a autant d'histoires que de mémoires. Il va rester diverses histoires, divers souvenirs, diverses nostalgies. Puis quand nous serons partis, ce sera un nuage dans la tête de nos enfants qui diront, bon, moi, ma fille, par exemple, ne se sent pas pied noir. Mais quand elle m'invite à déjeuner, elle me fait des poivrons frits, elle me fait parfois le couscous qu'elle a appris à faire de sa grand-mère. Mais pas parce que c'est pied noir ou parce qu'on fait ça, quoi. Il restera plus d'habitude que de valeur, que de souvenirs, que tout ça va s'estomper complètement avec nous. Ça va s'estomper. Je suis arrivé au bout de cette route algérienne, là. Je reste à l'avant du bateau.
C'était Pierre-Henri Saint-Eugène. Un grand merci à Pierre-Henri pour son témoignage. Merci aussi à Raphaël Duchemin, journaliste et petite fille de Pied Noir, qui nous a ouvert la porte de Pierre-Henri. Et de nous qui se souviendra est un podcast produit et réalisé par Nicole Guidicelli. La musique et le montage sont de Jean-Christophe Treille, sur un thème de Pascal Simoni. Ce podcast est dédié à mes parents, ainsi qu'à tous les déracinés.